Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Radio Mayuri Campus. Comme vous le savez, chaque dernier dimanche du mois, on se retrouve pour un petit live. Et pour ceux qui nous écoutent également en podcast ou à la radio, bonjour et bonsoir à tous. Donc 107.6 FM sur Cayenne pour Radio Mayuri Campus et 89.2 sur Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, si vous avez vu l'événement que j'ai préparé, on va parler de l'histoire de la Guyane. Donc tout d'abord, faut savoir que j'ai eu l'opportunité d'acheter des livres sur la Guyane. Donc, pour ceux qui regardent le live actuellement, je vais vous montrer un petit peu, d'accord, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, je me suis inspiré de trois livres que j'ai lus qui ont été écrits par Bernard Montabeau et Ellie Stephenson. Donc, à tous ceux qui regardent, je vous montre pour que vous puissiez voir un petit peu. C'est sur trois tomes. Il y a le tome 1 qui va du 17e au 19e siècle. Vous avez le tome 2 sur le 20e siècle sur la Guyane et le tome 3 qui est juste ici, une société coloniale en fait, un nom, une histoire. Donc ce sont des livres qu'on peut retrouver dans un libre-service qui est en face des palmistes. Pour ceux qui voient un peu, ils vendent pas mal de livres, etc. Ils font aussi des fournitures scolaires pour les enfants. Ben, c'est là-bas que j'ai acheté les livres. Donc pour ceux qui ont envie de découvrir l'histoire de la Guyane en profondeur, je vais vous raconter aujourd'hui ben, certains points de l'histoire qui m'ont marqué, pas tous, mais en tout cas quelques-uns qui m'ont pas mal marqué, que je trouve très intéressant. Et en tout cas, si vous voulez découvrir en détail l'histoire de la Guyane, vraiment, n'hésitez pas à vous procurer les ouvrages. Libre service en face des palmistes, normalement, vous n'aurez pas trop de soucis pour les trouver. Donc, la première chose que j'ai envie d'aborder avec vous ce soir, les amis, pour cette histoire de la Guyane, on va parler de Cayenne et ben, de l'origine du nom même de Cayenne. D'accord? On va parler de l'origine de Cayenne, de l'origine du Fort Sépérou, pourquoi le Fort Sépérou, etc. Et voilà. Donc, l'origine de. Alors, il y a une personne qui dit bonsoir. Donc, bonsoir à toi, Eliane. Et merci d'être là ce soir avec nous. D'ailleurs, effectivement, je voulais vous dire bonne fête. Déjà, bonne fête. Santé à vous. On arrive à la fin de l'année. Ça a été une longue année avec Radio Mayuri Campus. Donc, c'est mon 12e live avec la radio, ma 12e intervention. Donc, je suis très content et fier de ça. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent, bah, maintenant, en fait. D'accord? Donc, merci à toi, Eliane. Et puis, bonsoir à toi également. Donc, bonne fête à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Voilà, c'est la petite parenthèse avant qu'on commence. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël déjà, que vous avez bien mangé et tout, et que ben, vous passerez de bonnes fêtes pour le nouvel an, d'accord? Donc, on fait les choses bien. Donc, on va parler de Cayenne, effectivement. On va commencer par là. On va parler de Cayenne. Donc, on va voir quelle est l'origine du nom, en fait, de Cayenne. Donc, petit bonsoir également à Véronique Boyce qui est avec nous ce soir. Donc, pour l'origine du nom de Cayenne, déjà, il faut savoir que le nom même, l'origine du nom ne fait pas l'unanimité hein, parmi les chercheurs, les historiens. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'origine du nom, mais on a quand même des idées et il y a des pistes qui sont plus favorisées que d'autres. Donc, merci beaucoup. Alors, Eliane qui nous dit merci à vous de même, la santé avant tout. Ah là là, vous avez tellement raison, vous avez tellement raison. C'est très très important la santé. Et je vous faites bien de me le dire. Donc, alors, pour parler, pour rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on est là quand même pour parler de l'histoire de la Guyane. Donc, effectivement, l'origine du nom de Cayenne, bon, ne fait pas l'unanimité, mais c'est pas grave. Donc, il y a une légende en fait qui, selon laquelle, il y aurait eu un grand chef qui s'appelait Sépérou et qui aurait eu un fils qui s'appelait Cayenne et que la fiancée justement de ce fils-là, qui était la princesse Belém. En fait, ben, on part du principe que, ben, étant donné que son fils s'appelle Cayenne, ben, voilà, la ville aurait pris le nom de son fils. Donc après, on peut être ou pas d'accord. En tout cas, il semblerait que ça vienne de là, en fait, le nom de Cayenne. Donc, en tout cas, il semblerait bien que le nom de Cayenne soit d'origine amérindienne. Donc, il y a pas mal de. En réalité, on va voir même pour, par exemple, Montsinéry, où on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de noms de villes qui semble avoir des origines amérindiennes, ce qui n'est pas étonnant en soi, hein, quand on replonge un peu dans l'histoire de la Guyane. Ce n'est pas étonnant de voir qu'on a pas mal de noms de villes en Guyane qui sont tirés de sources amérindiennes. Donc, en général, il faut savoir qu'on attribue l'origine de la ville de Cayenne à Poncet de Brétigny. Donc, petit bonsoir à Réjeanne qui est avec nous ce soir également. J'espère que tu vas super bien. De mon côté, ça va. Donc, on attribue, comme je vous le disais, l'origine de la naissance de Cayenne à Poncet de Brétigny, puisque il est à l'origine de la construction du Fort Sepérou. Mais il faut dire que le Fort Sepérou a été construit dans un premier temps dans un objectif de défense, parce que à cette époque, on est quand même aux alentours du 17e siècle, on est vers 1650 par là. Donc c'était vraiment à l'époque où il y avait je dirais, la conquête européenne des colons. On avait les Hollandais, les Portugais, les Français, et l'idée c'était de pouvoir avoir une base forte de façon à pouvoir défendre l'endroit où on était, pour que les autres ne puissent pas venir prendre la Guyane, parce qu'on voulait coloniser Cayenne et coloniser la Guyane. Donc, le Fort Sepérou a été construit par Poncet de Brétigny, mais il n'y a rien qui prouve que lorsqu'il a construit le Fort Sepérou, qu'il avait pour projet de créer une ville et de favoriser l'expansion de Cayenne. Donc, il faut savoir que Cayenne a été bâtie en partant du Fort Sepérou. D'accord? Donc vous voyez un petit peu la chose. Il faut se dire qu'on a créé le Fort Sepérou et qu'à partir du Fort Sepérou, eh bien, on a commencé à créer, si vous voulez, quelques cases. Il y a quelques cases qui ont été construites vers 1652, 1654 par là. Ensuite, ça a pris la forme d'un petit village, puis d'une ville, et ça a donné Cayenne qu'on retrouve aujourd'hui. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit que c'était super intéressant. Et d'ailleurs, il y a Véronique qui nous fait un petit commentaire et qui nous dit que c'est très intéressant le thème choisi. Je suis né à Cayenne et cela me fait plaisir de connaître l'origine de ma ville de naissance. De rien, franchement, c'est avec plaisir que j'aborde ce thème-là avec vous. C'est très intéressant, les amis. Il y a énormément de choses à savoir. On va parler aussi du canal Lhossa, de son origine, du village chinois. Il y a énormément de choses. D'accord? Donc, voilà. Donc, effectivement, même comme je vous le disais, même si c'est Poncet de Brétigny qui a qui a construit le Fort Sepérou, ben en fait, rien ne prouve aujourd'hui qu'il a construit le Fort Sepérou dans une logique d'expansion après pour en faire la ville de Cayenne. Donc, de rien, encore une fois. Donc, Iliane qui nous partage un petit commentaire. C'est bon de savoir cela. Un grand merci à vous. De rien, c'est avec plaisir. Et pour la petite anecdote, je continue de lire, hein, puisque j'ai encore plusieurs livres sur la Guyane. Je ferai des vidéos sur la Guyane, pas mal de projets autour de la Guyane, de façon à ce qu'on puisse vraiment se plonger dans l'histoire de chez nous et qu'on puisse comprendre en fait ce qu'il y a eu dans le passé pour mieux appréhender et construire le futur. Je pense que c'est très important. Donc maintenant, pourquoi Cayenne, c'est la capitale? Faut savoir que ça n'a pas nécessairement toujours été la capitale, en tout cas pas considérée toujours comme la capitale. Ce qui s'est passé, les amis, c'est qu'en 1688, il y a le gouverneur de Férolles qui a fait installer en fait les organes du gouvernement à Cayenne. Mais de base, ils étaient installés à Amiens. Et là, vous allez me dire, mais Amir, mais qu'est-ce que c'est Amir? Parce qu'il faut savoir qu'avant de s'appeler Rémire, ça s'appelait Amir, d'accord? Et du coup, parce qu'on a fait déplacer les organes du gouvernement à Cayenne, eh bien, de facto, Cayenne est devenue la capitale. Mais on pourrait partir du principe que c'était Rémire, parce que c'est les organes du gouvernement étaient d'abord à Rémire. Et d'ailleurs, après, on va parler un petit peu de dans quel contexte la première banque de Guyane a été amenée. Donc, voilà, Cayenne a tout d'abord été conçue pour la défense de la colonie, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la défense de la colonie de la Guyane à la fin du XVIIe siècle. Et Cayenne était protégée donc par 60 pièces de canon et 200 hommes de garnison qui étaient au niveau du Fort Sepérou. Maintenant, je veux partager avec vous ces informations qui sont intéressantes aussi. Les incendies de Cayenne. Il faut savoir que Cayenne a été marquée par différents incendies, dont un qui a été très important. Peut-être que il y a des personnes qui en ont entendu parler. L'incendie de août 1888. Est-ce que ça vous parle? Bon, ça date effectivement, mais peut-être que vous en avez entendu parler de près ou de loin. Donc, faut savoir qu'en septembre 1669, il y a une douzaine de maisons du chef-lieu qui ont été détruites, parce qu'il faut dire qu'avant, les cases, les maisons étaient construites principalement avec des matériaux en bois. Donc, forcément, c'était, bon, c'est pas qu'on construit plus en bois, mais effectivement, à l'époque, c'était quand même majoritairement en bois et donc très inflammable. Du coup, il y a eu pas mal d'incendies. En octobre 1865 aussi, il y a deux grandes constructions qui appartenaient à l'État, pour le coup, qui ont été littéralement dévorées par les flammes. En mars 1875 également, il y a eu un incendie qui a détruit la geôle des femmes à Cayenne. Alors, ça m'a intrigué. La geôle des femmes, je n'ai pas encore approfondi, mais ça, ce sont des choses que j'approfondirai. Je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à m'en dire, à partager aussi si ça vous parle ou pas. Hein, on est ensemble. Et puis, c'est vrai que la geôle des femmes, c'est pas plutôt Armir. Alors, où je dis ça par rapport à l'arrivée du prince Armir chaque année au début de la saison carnavalesque. Très, 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 très bonne réflexion, Véronique. En plus, j'ai eu un petit doute. J'espère que ce n'est pas parce que j'ai fait une faute de frappe, mais je crois que c'est Armir, effectivement, et pas Amir. Très bonne réflexion. Je vérifierai en tout cas. Mais c'est soit Armir, soit Amir. Mais il se pourrait bien que ce soit Armir, comme tu le viens de le préciser. Et je ne savais même pas ça par rapport à l'arrivée du prince d'Armir. Eh bien, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Et du coup, merci beaucoup. Merci pour la petite précision. L'histoire, c'est très passionnant et ce sont vraiment ces petits ajustements qui permettent d'avoir une histoire la plus réelle et la plus vraie possible. Donc ensuite, il y a eu en août 1885 le premier musée de Cayenne réduit en cendres par le feu. Donc c'est pas rien. Et justement, le plus gros incendie de Cayenne, c'était l'incendie de août 1888. Voilà, ça a incendié. Il y avait les rues du port, il y avait Rémire, Messin, Franklin d'Enfer. Alors là, franchement, ce sont des endroits que je ne sais pas si ça vous parle. Personnellement, ça ne me parle pas du tout. Des soupirs, du commerce, Portal, Chaussée Sartine, Mantel, des remparts, en fait, qui ont été littéralement sous l'emprise des flammes. Et puis, c'est à partir de ça, en fait. Parce que c'est en octobre 1888, donc de la même année que l'incendie, que s'est constitué le corps des pompiers de Cayenne en vue justement de lutter désormais contre les incendies. Donc on part du principe que c'est à partir de 1888 que le système des pompiers, hein, se met en place de façon à prévenir ce genre d'incendie. Donc ça aussi, c'est intéressant à savoir. Donc maintenant, faut savoir que c'est au cours je dirais, c'est au cours du 19e siècle qu'il y a eu pas mal de constructions riches et de créations à Cayenne. Donc, il y a eu plusieurs occupations à Cayenne et ça, on va y revenir aussi parce qu'il faut savoir qu'à quelques, je dirais, si les Hollandais avaient peut-être été plus forts à un moment ou à un autre, peut-être qu'on serait pas français aujourd'hui. D'accord? Parce que les Hollandais ont été chassés par les Français, parce qu'ils avaient réussi à reprendre Cayenne, et ça se passait autour du fort Sépérou, et enfin, je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou pas, mais dans tous les cas, les Hollandais ont été chassés par les Français, mais ça, on y revient tout à l'heure. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, Véronique nous confirme que c'est tout à fait ça, Armir, et ben merci, le savoir se partage, on partage, on fait en sorte que tout le monde l'ait. Donc, bonsoir à Poppy CNT qui nous rejoint dans ce petit live également. J'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes de Noël et que ça va être pareil pour le jour de l'an. Donc, effectivement, il y a eu une occupation portugaise à Cayenne, donc de 1809 à 1817. D'accord? Là, c'est un monsieur qui s'appelle Maciel d'Acosta qui a fait agrandir Cayenne vers l'est et qui a fait rénover et agrandir l'église qui s'appelait alors Saint-Nicolas, d'accord? Donc, j'imagine que vous pensez comme moi à l'église Saint-Sauveur. Eh bien, avant de s'appeler Saint-Sauveur, elle s'est appelée Saint-Nicolas. Donc, en 1821, là, c'est quelques dates clés, parce que en 1821, il y a eu la construction de la route menant de Cayenne à Baduel, d'accord? Faut le savoir. Il y a eu la construction du premier poste de commissaire de police également. En 1829, ben, on pose la première pierre de la nouvelle église de Cayenne. D'accord? Et elle sera achevée 10 ans plus tard. Donc ça a quand même pris pas mal de temps. En 1833, elle est achevée et elle prendra le nom de Saint-Sauveur. Donc en fait, là, c'est une autre église qu'ils ont mise en place et qu'ils ont bâtie. D'accord? Donc il y avait l'église Saint-Nicolas et il y a eu l'église Saint-Sauveur après. Donc en 1829, il y a eu la mise en place à Cayenne d'un tribunal de première instance. Donc là, disons que toutes ces institutions-là, elles ont été implantées pour... c'était vraiment les débuts, hein. C'était la première fois qu'on commençait à faire les premières constructions. Et puis en 1837, il y a eu l'inauguration du nouveau palais de justice également. Et en 1854, Cayenne sort de l'obscurité. Des réverbères à pétrole sont installés et mis en marche. Donc jusque-là... Il n'y avait pas forcément d'éclairage à Cayenne. Et je pense également au fait que ben, aujourd'hui, je ne sais pas si on a de l'éclairage partout à Cayenne. Pour vous faire une petite confidence, ben, j'étais en Guyane très. Ben, j'ai fait une semaine en Guyane. Là, je suis rentré aujourd'hui sur Paris. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette problématique de la lumière. Parce que même quand on roule à certains endroits, on se dit, on réalise en fait que c'est. Ben, c'est pas éclairé du tout et on voit que les problèmes d'obscurité, c'est toujours d'actualité. Donc, en 1860, il y a eu la création d'une société d'assurance mutuelle pour les ouvriers de Cayenne. Donc, ça, c'est bon à savoir aussi. Après, en 1866, il y a l'installation à l'intérieur du Fort Sépérou de deux citernes pour conserver l'eau des lacs du Rorota afin d'alimenter la ville. Parce que oui, le lac du Rorota où j'ai eu l'occasion, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion aussi vous, mais j'ai eu l'occasion d'aller faire du canoë-kayak là-bas quand j'étais au lycée. Ben voilà, c'était un lac qui permettait d'alimenter la ville. D'ailleurs, je pense que c'est plus du tout le cas aujourd'hui, sauf erreur de ma part, hein, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc en 1867, on a eu l'inauguration de la fontaine du boulevard Jublin. C'est juste à l'angle avec l'avenue de Gaulle. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'elle est toujours là, cette fontaine? Je ne pense pas qu'elle soit en service, mais juste si quelqu'un peut me confirmer effectivement que ben, la fontaine, elle est toujours là. En tout cas, elle a été inaugurée en 1867. Donc maintenant, comme on le sait probablement tous, la Guyane a été départementalisée en 1946. C'est vraiment l'année de la départementalisation. Et quand je pense à 1946, je me dis, ah oui, quand même, ben, ma mamie, elle est née en 1944. Ça veut dire que lorsqu'elle est née, elle a connu la Guyane toujours sous, qui était toujours une colonie. C'est pas rien. Et je cherchais en fait des personnes qui seraient toujours vivantes et qui auraient vécu la départementalisation. C'est, je pense qu'il n'y a plus personne de vivant, que toutes ces personnes-là sont déjà décédées malheureusement, puisque a priori si ma mamie elle est née en 44, voilà. Donc en fait, si vous connaissez des personnes d'un certain âge qui auraient d'accord, donc Véronique nous dit oui que effectivement la fontaine du boulevard est toujours là et devant Carioca. D'accord, super. Si jamais vous connaissez des personnes d'un certain âge, les personnes d'un certain âge ont vraiment de la valeur à apporter parce qu'elles ont vécu des choses à l'époque en Guyane et elles savent énormément de choses. Et moi, ce serait vraiment un plaisir de pouvoir interviewer, même parler seulement avec une personne qui aurait vécu avant 1946 et qui aurait connu vraiment, qui aurait vécu cette départementalisation. Donc, il faut savoir quand même que en 1946, Cayenne, c'était toujours une petite ville, hein, c'était pas très grand. Au sud, elle s'arrêtait au canal Lossa, la Crique, comme vous connaissez. Et à l'est, en fait, elle était limitée par le boulevard Jublin. Donc, c'était pas très grand. Et puis au sud, justement, après le canal Lossa, il y avait la cité semi-lacustre des Annamites, des Vietnamiens, qui au final, en fait, était improprement appelée aujourd'hui. Et elle était improprement appelée, et même aujourd'hui, elle est encore le village chinois. Et en fait, je me demande, est-ce qu'il y avait vraiment des Chinois qui ont vécu dans ce village-là? A priori, c'était des Annamites, et les Annamites, ce sont des Vietnamiens, d'accord? Et cette cité, avant qu'on l'appelle village chinois ou même Chicago, ben, ça s'appelait la cité semi-lacustre. D'accord. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et au final, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes, pas mal de personnes avec différents horizons, différentes origines qui, à un moment donné, ont été en Guyane. Et pourquoi aussi je mets ça en avant? C'est parce que la question des origines et de l'origine guyanaise, c'est une question qui parfois fait débat. Et je pense qu'elle est très importante et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse le point sur notre histoire et qu'on sache exactement d'où on vient, d'accord? Entre l'Afrique, etc., il y a eu pas mal de personnes, il y a eu des Chinois à un moment, etc. Donc, il y a eu aussi des Arabes en Guyane, hein? J'en parlerai pas ce soir, je pense, pas en détail, mais j'en parlerai probablement dans une vidéo. Il faut savoir qu'à un moment, il y a eu des Arabes en Guyane qui ont été déportés. Si je ne dis pas de bêtises, c'était des Algériens qui ont été déportés. C'était à l'époque du bagne. Et ensuite, ben, on a fait en sorte qu'ils puissent rester pour peupler. Je ne sais pas qu'est-ce que ces personnes-là sont devenues, si elles sont reparties à un moment donné. Mais en tout cas, je sais que à un moment donné, il y a eu effectivement des Arabes et pas que. Donc, à partir de 1950, il y a un développement de la Guyane qui, notamment de Cayenne, surtout puisqu'on parle de Cayenne, il y a un développement de Cayenne qui s'accentue. Donc, à l'est, il y a l'apparition de la cité des castors. Alors là, je pense que là, ça vous parle, la cité des castors, qui pour le coup, était plutôt occupée par des Guyanais aisés. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était le cas dans les années 50. Il y a eu la cité Rebar également, qui était surtout pour les fonctionnaires. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Il y a aussi la cité Les Alizés. Alors là, ça ne me parle pas trop, qui a été créée en 1959. Et puis, quelques années plus tard, a été édifiée la cité Zéphyr entre Montabo et Bourda. Donc, voilà. Alors, des Syriens et des Libanais. Ben, oui, également, c'est vrai. Véronique qui nous dit qu'il y a également des Syriens et des Libanais. Alors, les Syriens, je ne sais pas depuis quand. Les Libanais, j'imagine que ça fait un moment, depuis longtemps. Les Syriens, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Mais bon, ça encore, faut le déterminer. Donc, après les travaux d'assèchement et d'assainissement du docteur Barra, il y a plusieurs cités qui ont surgi, hein, et qui ont pris de l'extension. Il y a eu Mirza, et d'ailleurs, on reviendra aussi plus tard, je pense, dans une vidéo sur l'histoire de Mirza. Il y a Césaire, Anatole, Faubourg-l'Abri en 1959, Témir. Il y a la cité des Manguis aussi. En 1963. Donc là, je pense que ça vous parle. Hein. Là, franchement, ça nous parle. Là, on sait de quoi on parle. On connaît ces cités. Et puis, il faut savoir aussi que le maire Léopold Eder, ben, il a continué ce type de travaux et il a aménagé le secteur sud avec la construction de la rénovation urbaine. Vous voyez, hein, c'est vers en ville, là, près du rond-point, si je ne dis pas de bêtises. Là, je visualise le truc, mais il y a aussi eu la récupération par la municipalité des cités Bonhomme et Brutus. Donc, voilà. Et en gros, ben, ça se passait, on dit la cité Castor et non pas la cité. Oui, eh bien, oui, Véronique qui nous dit qu'on ne dit pas la cité Castor et on dit la cité Castor, pardon, et non pas la cité des Castors. Alors, je pense que les noms ont évolué. Tu sais pourquoi je te dis ça, Véronique? Parce que c'est la même chose pour Apatou. On va parler d'Apatou aussi. Parce que Apatou, avant, ça se disait le village d'Apatou. Et en fait, avec le temps, il y a eu un changement, en fait. Et du coup, on a fini par dire uniquement Apatou. Donc, je me demande s'il n'y a pas. Ça s'est pas passé de la même façon pour la cité Castor. Je ne sais pas, mais en tout cas, la question se pose à confirmer. Donc voilà, en fait, si vous voulez, il y avait surtout les classes populaires dans le secteur sud et il y avait une sorte de petite bourgeoisie dans le nord et dans l'est. Donc maintenant, Sepérou, on revient un petit peu dessus puisque le fort Sepérou, c'est vraiment un endroit que je trouve qui est super et on ne connaît pas forcément son histoire. Ben, en fait, c'est oui, le fort Sepérou, c'était la colline de toutes les convoitises parce que, comme je vous ai dit, on voulait absolument avoir le fort pour pouvoir avoir une longueur d'avance sur les autres qui arrivaient par la mer. Donc, la colline du fort Sepérou, ben, ça a d'abord été habitée par les Amérindiens. Ça, faut le savoir. Et puis, les puissances coloniales qui sont arrivées, les puissances coloniales européennes, elles se sont battues pour obtenir cette position élevée puisque c'était une position stratégique. pour voir les autres ennemis arriver. Donc, comme on l'a vu, ben, c'est Poncet qui est à l'origine du Forcé Pérou. Il arrive vers novembre 1643, d'accord? Et il était accompagné de 300 hommes. Donc là, ils ont débarqué à Armir, effectivement. Et je confirme que Véronique a raison, c'est bien Armir qui est devenu Rémir. Et on rentrera dans les détails aussi une prochaine fois sur l'histoire de Rémir. Donc, et en fait, les gens venaient avant par Rémir, d'accord? On n'arrivait pas directement par Cayenne, on arrivait par Rémir. Ensuite, on rejoignait Cayenne. Le problème qui s'est passé avec les Européens qui sont arrivés, les colons, c'est que, en fait, Poncet, il était cruel, d'accord? Et sa cruauté n'a pas été appréciée des autochtones. Et du coup, eh ben, en fait, ils ont décidé d'attaquer le fort, tout simplement. Et du coup, Poncet, qui est celui qui a initié la création du Forcé Pérou, eh ben, il a été tué d'une flèche, d'accord, par un Amérindien du nom de Pagaret. Et ça s'est passé en 1645. Donc, franchement, c'est ce qu'on pourrait quand même vachement reproché aux colons, hein, c'est le mépris par rapport aux populations autochtones, bah, cette cruauté qui a, bah, a priori fait que les autochtones, bah, ils ont attaqué, quoi. En tout cas, bah, de Poncet, il a été tué d'une flèche, d'accord? Et puis en début 1952, par là, il y a le sieur Navarre, qui était suivi pour le coup d'une soixantaine d'hommes, qui va se réinstaller, hein, au niveau du fort. Et puis, avec les seigneurs associés, dans le cadre de la Compagnie de la France équinoxiale, puisque à l'époque, on parlait de la France équinoxiale, ben en fait, ils sont arrivés avec 800 hommes. D'accord? C'était le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. Et c'est pour ça, on ne le sait pas forcément, mais que le fort Sepérou a été baptisé dans un premier temps le fort Saint-Michel du Sepérou. Et pas juste le Sepérou. Après, on voit que finalement, on a gardé Sepérou, mais au départ, comme ils sont arrivés le 29 septembre, c'était Saint-Michel du Sepérou. Ensuite, entre 1653 et 1654, donc là, on est au XVIIe siècle, ça remonte beaucoup, eh ben, le fort, il est tombé aux mains des Indiens. Voilà, les Amérindiens, ils l'ont pris. Ils étaient en rébellion. Ils n'ont pas accepté que les colons arrivent comme ça et ben, s'en prennent à eux et à un comportement qui n'était pas forcément le meilleur. Donc, ils ont décidé de prendre le fort et de se l'approprier. Et durant 2 décennies, le fort deviendra l'enjeu de nombreuses batailles entre Hollandais, Anglais et Français. Et juste pour la petite parenthèse également, pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut savoir qu'il y a trois Guyanes. De ce que j'ai vu, il y a trois Guyanes. On a la Guyane hollandaise, enfin du coup, on avait, puisque aujourd'hui la Guyane hollandaise est devenue le Suriname, la Guyane anglaise est devenue le Guyana. Et c'est pour ça que pendant longtemps, je faisais la confusion entre French Guyana, Guyana, quand on veut commander sur Internet, on ne sait pas trop quoi prendre entre Guyana, Guyana, on se dit, mais c'est quoi pour la Guyane? Parce qu'effectivement, il y avait trois Guyanes, Guyane hollandaise, Guyane anglaise et Guyane française. La Guyane hollandaise est devenue le Suriname, la Guyane anglaise est devenue le Guyana, avec pour capitale Georgetown, et la Guyane française est devenue, ben non, en fait, elle est restée la Guyane française. Donc, je vous avoue que ça me fait toujours un peu bizarre parce que je me dis, bon, ben, on a le Suriname qui a pris son indépendance, le Guyana qui a pris son indépendance, et nous, bon, ben, on est resté là, quoi, on a gardé un peu ce statut de département, etc. Et je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si c'était les Anglais ou les Hollandais qui nous avaient colonisés? Est-ce qu'on serait indépendant aujourd'hui? Qu'est-ce que l'indépendance nous aurait apporté? Oui, non? Enfin bon, voilà, moi je me pose des questions et je me dis que faut quand même y réfléchir. Donc voilà. Et puis, comme je vous disais, ben, il était Poncet, il était cruel, donc forcément, il s'est fait tuer. Et du coup, en 1676, l'amiral Bink, qui pour le coup lui était hollandais, ben il semblait s'être imposé définitivement. On pensait que là, ben les Hollandais, ils avaient Cayenne, ok. Eh ben Cayenne serait pas française, serait pas une ville française aujourd'hui, mais une ville hollandaise. Sauf que, eh ben comme la France, elle était décidée à reprendre Cayenne, parce que voilà, elle avait son désir de colonisation. Il fallait pas laisser fallait pas laisser le Cayenne aux Hollandais, et eh bien, vous savez quoi? Eh bien, ils sont revenus. Alors déjà, les Hollandais, ils ont consolidé le fort Sepérou avec 28 pièces d'artillerie et une garnison permanente de 300 hommes pour être sûr qu'au cas où, si les Français revenaient, ils seraient déjà prêts. Donc, il y a Eliane qui nous dit, tout à fait, la Guyane hollandaise est maintenant Suriname. Oui, bah, en fait, c'est ça. Et moi, je me dis, mais ouais, ils ont pris leur indépendance. Après, je sais que on a du mal à prononcer le mot indépendance. C'est un peu un mot défendu, sauf que bon, moi, j'ai aucun souci à prononcer ce mot et à en parler. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, hein, parce que c'est comme si, en fait, il y avait eu une évolution. Maintenant, après, on peut se demander, est-ce que finalement, parce que j'en ai parlé rapidement sur Twitter tout à l'heure, est-ce que l'indépendance du Guyana et du Suriname a été bénéfique pour eux, oui ou non? Et voilà, c'est un débat aussi qui peut être intéressant. Et qu'est-ce que ça aurait peut-être donné si ça avait été la Guyane? Qu'est-ce que ça avait donné si c'était les Hollandais ou les Anglais qui nous avaient colonisés? Déjà, on aurait parlé anglais, ça aurait été cool. J'aurais pas eu besoin d'apprendre l'anglais à l'école. Donc ça aurait été génial, au moins pour les Anglais. Et puis sinon, on aurait parlé hollandais, quoi. Ça aurait été cool aussi, non? Donc voilà, je me dis, ouais, les Hollandais, vous avez déconné, les Anglais, vous auriez pu. Voilà quoi. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ben, la France, elle tenait absolument à. D'ailleurs, oui, puisque avant qu'on parle du retour en force de la France et que comment la France a repris Cayenne, il y a Véronique qui nous dit, il n'y a pas de castor en Guyane. Ok, l'animal. Par contre, ce nom de famille existe. Oui, ça me parle, effectivement. Une famille très connue, notamment lorsque l'on pense à Élie Castor. Effectivement, Élie Castor, sénateur, maire décédé, mais qui a laissé une empreinte indélébile dans la vie des Guyanais de par son travail acharné pour son pays qu'il aimait tant. Il a d'ailleurs été surnommé le taureau de Sinnamary, un grand homme, un grand homme. Alors, juste pour la toute petite parenthèse, d'ailleurs, je pense que je parlerai un jour d'Élie Castor, puisque c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Élie Castor est décédé le 16 juin 1996 et je suis né le 16 juin 1996. Donc autant vous dire que pour moi, c'est pas rien du tout. Et dans la démarche dans laquelle je m'inscris, ça représente énormément. Mais je parlerai d'Élie Castor un peu plus tard également. Mais merci pour la petite information, Véronique. Ce qui s'est passé avec la France, ben comme elle tenait, comme je vous le disais absolument, à se faire une place en Amérique du Sud, parce qu'il faut savoir qu'il y avait aussi le mythe de l'or. Le mythe de l'Eldorado, c'est ce qui a aussi pas mal motivé hein, les colons à venir en Guyane. Eh bien, en fait, il y a Colbert qui a envoyé sur le champ une escadre, en fait, sous le commandement du vice-amiral Comte d'Estrées. Et c'est d'Estrées, en fait, qui va reprendre Cayenne. D'accord? Donc, la bataille pour la reprise du fort Sepérou, donc pour la reconquête de la Guyane, fut extrême, extrêmement violente et dure. Et du coup, ben, en décembre 1676, d'Estrées jette les Hollandais à la mer et s'empare du fort. Et à ce moment-là, la France reprend possession du fort et de facto de Cayenne. Et ensuite, ben, l'histoire, elle s'est écrite, quoi. Donc, salut DJ Did. Bonsoir DJ à toi. Merci d'être là, de passer, d'être avec nous. Et ben, salut de Toulouse, hein, franchement. Moi, je suis sur Paris. Donc, salut, salut, c'est vraiment cool de t'avoir. J'espère que tu as passé un bon Noël et que les fêtes du 31 s'annoncent plutôt bien. Donc maintenant, je vais vous parler, les amis, de Bonnie. Parce que souvent, voilà, on parle des Bonnie, mais en fait, il y a vraiment une histoire derrière Bonnie. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Bonnie, l'histoire du peuple Bonnie, d'où il vient, quelles sont leurs relations avec les. Alors, je vais essayer de bien le prononcer, les Ndjuka. Alors, j'espère que je le prononce bien, s'il vous plaît. Dites-moi si je le prononce pas bien. Mais les Ndjuka, voilà, je pense que c'est ça. Donc, on va parler de Bonnie, les amis. Déjà, Bonnie, c'est un mystère. Bonnie, c'est que d'histoire. Heureux d'en apprendre autant. Salut, Poppy. Ben, en fait, tu vois qu'il y a du monde quand même, là. Vraiment, salut, salut, tout le monde. Alors, Poppy, oui, je crois que je t'ai déjà dit bonsoir. C'est tellement intéressant, Poppy, mais vraiment, il y a tellement de choses. Il y a aussi, je vais vous parler avant de vous quitter tout à l'heure de pourquoi on dit l'île de Cayenne. Pourquoi on dit l'île de Cayenne? Est-ce que, eh ben, en fait, quand parfois on dit oui, la Guyane, c'est une île, machin, machin, mais faut savoir qu'avant, Cayenne, c'était une île, les amis. D'accord? Cayenne, c'était une île. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'était une île. Cayenne, hein, je parle vraiment de la capitale. C'était une île comme la Guadeloupe et la Martinique. Et je pense que les gens, après, ont pris une mauvaise habitude ou se sont un peu perdus et confondent la Guyane avec une île, etc. Mais en tout cas, Cayenne était bel et bien une île. D'accord, je vais vous expliquer rapidement pourquoi tout à l'heure. Donc, Boni, c'est un vrai mystère, en fait. Boni, on se dit, oui, le peuple Boni, mais d'où ils viennent, etc. Alors, et de belles fêtes. Alors, franchement, merci beaucoup, DJ. Merci beaucoup à DJ pour tes mots. Merci beaucoup. Vraiment, Eliane, c'est extrêmement intéressant de connaître l'histoire de notre pays. Et vous allez voir qu'on n'aura pas la même approche après. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de parler de tout ce qu'il y a eu, de comprendre les enjeux. Et on va essayer de, parce qu'on le temps passe très vite. J'aimerais passer beaucoup de temps avec vous, mais c'est pas forcément possible. De toute façon, il y a aussi l'histoire de Tony Grant, mais oh là là, c'est magnifique. Enfin bon, parlons de Bonnie, les amis. Donc, Bonnie, c'est un mystère. Alors, il y a des gens qui disaient qu'il avait des pouvoirs, mais d'où il vient Bonnie? Bon. Qui est-ce qu'il était? Quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qu'il a fait, Bonnie? On n'a pas trop de précisions sur quand est-ce qu'il est né, mais on sait qu'il est né vers 1730, d'accord? Donc, Bonnie, c'était un marron créole, un esclave né dans les forêts de la colonie hollandaise de l'époque, aujourd'hui Suriname, donc. Donc, il y a des gens qui disent, qui s'accordent pour dire que sa mère, ben, en fait, elle aurait été une esclave noire-marron, d'accord, de la plantation Groot Marseille sur la Cotica, et que son père, Abony, aurait été un maître de la plantation lui-même. Donc ça, c'est une première hypothèse qui est proposée. Et pour d'autres personnes, ben en fait, Bonnie, il serait tout simplement né dans un village de Nègre-marron, et son père serait un Amérindien. D'accord? Donc, a priori, les gens sont plus d'accord pour dire que le père de Bonnie est un Amérindien et que sa mère était une femme noire. Donc, et pour le coup, il disait dans le livre que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel à l'époque. Ça veut dire qu'on avait ce métissage. Bonnie, c'est un métis noir et amérindien qu'on appelle un cabogué. D'accord? Et pour les lieux et l'époque, le fait n'est pas exceptionnel. J'ai aussi appris, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes, je vous le dis très sincèrement, que je pense que d'un point de vue historique, il y a eu des tensions entre les Amérindiens et les Noirs. Et je crois que ça a créé aussi des tensions aujourd'hui. Et j'aimerais bien aussi en parler, mais ça, ce ne sera pas ce soir. Mais en tout cas, on voit qu'à l'époque, ben, a priori, il y avait du métissage entre les Noirs et entre les Amérindiens. D'accord? Donc voilà. Bonnie, en fait, c'est en 1769, les amis, qu'il devient chef d'un groupe de marrons, en fait, qui lui a été confié par Sylvester, qui était lui-même chef à ce moment-là. Mais comme il se faisait vieux, il a décidé de donner le commandement à Bonnie pour qu'il prenne le relais. Donc de là, en fait, Bonnie a dirigé ces hommes-là et de là est né le peuple Bonnie. D'accord? Donc le peuple Bonnie a pris le nom même de ce monsieur qui s'appelle Bonnie. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Hollande, enfin pas en Hollande, qu'est-ce que je raconte, en Guyane hollandaise, il y a eu beaucoup d'affrontements entre le gouvernement colonial. Donc, et vous allez comprendre, puisque là vous vous dites, mais attends, mais c'est en Guyane hollandaise, mais là on est en Guyane française, mais comment ça se fait que Bonny, après on allait Bonny sur le à Saint-Laurent, sur le fleuve du Maroni, comment vous allez comprendre. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'affrontements entre les Bonny, pour le coup, qui étaient devenus un peuple au-delà d'être une armée. Et alors, il y a Basto Taylor qui nous dit, alors, qui nous dit, hey, tu racontes n'importe quoi, tu connais rien de Bonnie. Bon, eh ben, si tu connais plus que moi sur Bonnie, n'hésite pas à dire, hein, à faire des commentaires, n'hésite pas. En tout cas, ce que je dis est tiré de livres. Et donc voilà, ce sont des livres sur la Guyane. Et si tu dis ça, bon, bref, en tout cas, voilà, n'hésite pas à donner ton avis, il n'y a pas de problème, on peut parler. Donc, je disais, oui, pour l'avoir vécu, un noir. Alors, oui, pour l'avoir vécu, comme dit Eliane, un noir et une Amérindienne étaient mal acceptés chez les Amérindiens. Oui, il y a pas mal de tensions à ce niveau-là, donc ça peut être un petit peu problématique, mais ça aussi, c'est un sujet qui mérite d'être étudié. Donc, comme je vous le disais, donc Bonnie a pris, il a été à la tête de cette, des voilà, de l'armée qui sont devenus les Bonnie. Et du coup, ils ont affronté pendant longtemps, à peu près quasiment 30 ans, le gouvernement colonial hollandais. Donc c'est pour dire à quel point, ben, finalement, les esclaves, ils ont réussi à tenir tête finalement. Et on nous montre pas forcément. Ça, eh ben c'est super. Alors Basto qui nous dit oui, je suis un Bonnie à Loukou, eh ben c'est génial, ça tombe super bien que tu sois là ce soir. N'hésite pas, hein, parce que en fait, n'hésite pas à donner ton avis, etc. N'hésite pas. Voilà, on est là pour discuter. Et du coup, en fait, C'est ce qu'on ne nous montre pas forcément. On nous montre souvent que, ah oui, il y a eu la colonisation, etc. Ils sont arrivés, ils ont mis les gens en colonisation. Mais en fait, il y a des gens comme Bonny qui ont vraiment tenu tête, mais vraiment sur plusieurs années, et qui ont tenu tête au gouvernement de l'époque et aux colons de l'époque. Et ça, on ne nous le dit pas forcément. Et c'est ce que je trouve un peu dommage. Donc pendant à peu près 30 ans, eh bien, il y a Bonny et son armée qui a tenu tête aux Hollandais, mais du coup, il y a eu aussi des succès, des revers, des victoires, des défaites, et à cause de dissensions internes, d'accord, et de trahison, c'est un peu ça le problème. Ben, en fait, il y a eu des alliances aussi avec des groupes de marrons qui étaient anciennement libérés et les troupes coloniales hollandaises. Donc c'est, en fait, pour le coup, le seul moyen réellement qu'ils ont eu je dirais, pour avoir Bonny et pour battre Bonny, c'était avec. Et ça a été souvent le cas, en fait, de dire que à un groupe, si vous attrapez Bonny, si vous nous aidez à l'attraper, vous serez libre. Et malheureusement, ça a été un peu ça, c'est à base de trahison, etc. Et c'est uniquement comme ça qu'ils ont réussi je dirais, vaincre Bonny. Sinon, ils n'auraient tout simplement pas pu, a priori. Franchement, donc voilà. Et puis les hostilités, elles ont cessé réellement entre les colons de la Guyane hollandaise et les Bonny vers 1802, puisqu'après les Bonny se sont installés sur la rive française du Maroni, d'accord? Et c'est à ce moment-là, c'est pour ça en fait qu'on retrouve des Bonny tout simplement sur le Maroni. Voilà, mais de base, c'était des esclaves qui sont venus de la Guyane hollandaise et qui sont venus en Guyane, voilà. Donc voilà, et du coup c'est la mort de Bonny, elle demeure un mystère aussi, d'accord, tant chez les Bonny que chez les Ndjuka. Et pour moi c'est un sujet intéressant, hein. J'invite les Bonny et les Ndjuka, et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer, de pouvoir en discuter avec vous, parce que je trouve que c'est intéressant. Et du coup, il y a des gens qui disent que Bonny aurait été tué au cours d'un affrontement ou d'une embuscade avec une tribu Ndjuka, d'accord. Ça c'est on dit, d'accord? Donc après, allez savoir si c'est vrai. Là, en fait, on n'est pas sûr du tout, hein, d'accord? Donc c'est pas des affirmations, on n'est pas sûr. Et faut savoir que sa tête avait été mise à prix, et du coup, on dit que ses assassins, ben, afin de toucher la récompense, qu'ils lui auraient coupé la tête pour l'apporter au gouverneur général de Paramaribo, et qu'au cours de ce voyage, justement, la tête serait tombée par-dessus bord et aurait disparu dans les eaux du fleuve. Pourtant, ben en fait, il y a des Bonny qui prétendent que ce ne sont pas les Ndjuka qui l'ont tué, et que ce serait une ruse. Donc voilà, en fait, ces deux hypothèses. Dans tous les cas, faut savoir qu'il y a le nom de Bonny Doro qui a été donné sur le fleuve du Maroni, à l'endroit où la tragédie est supposée s'être déroulée. Donc personnellement, j'aimerais beaucoup aller là-bas pour voir, pour pouvoir échanger avec les gens là-bas, pour aussi que les Bonny et les Ndjuka puissent me raconter un peu, en fait, directement leur histoire, et ce qu'ils en pensent, en tout cas, de l'histoire de Bonny. Donc maintenant, je veux vous raconter quelque chose par rapport au canal Lhossa. Donc, faut savoir que le canal Lhossa. Alors, est-ce que vous connaissez le Gisembourg? Gisembourg, c'est un village qui n'est plus habité aujourd'hui, d'accord? C'est un village qui n'est plus habité aujourd'hui, mais qui l'a été auparavant et qui a été nommé comme ça parce qu'il y a un homme en Guyane qui a fait beaucoup pour la Guyane et qui s'appelait Gisan. Alors, Basto, là, vraiment, qui me dit, mon frère, viens en Guyane, t'inquiète pas, j'espère vraiment avoir l'occasion de te rencontrer pour qu'on puisse échanger, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas pour ça, j'espère être amené à pouvoir venir, pouvoir échanger avec toi. Voilà, là, ce sont vraiment des histoires sur Bonny. En fait, l'histoire de Bonny, il n'y a pas de choses absolues, c'est différent. Proposition, parce que c'est, il n'y a pas de choses claires, c'est, enfin voilà, ce sont des hypothèses. Donc si tu as des informations claires et des choses très 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 claires, bah écoute, j'espère pouvoir te rencontrer un jour en Guyane, mais de toutes les façons, ne t'inquiète pas, d'accord, on aura l'occasion d'échanger, c'est pas un problème. Si tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont pas correctes, il n'y a pas de problème, on peut échanger. Et c'est ça qui est intéressant, c'est chacun donne ses hypothèses, etc. Mais je pense que sur l'histoire de Bonny, à moins qu'on ait, ben, je pense que le meilleur moyen d'avoir les meilleures infos, c'est justement de rencontrer les peuples Bonny et Ndjuka, et ce sera un plaisir. Donc, pour aller rapidement, donc effectivement, l'origine du canal Lhossa, d'accord? l'origine du canal Lossa, faut savoir que en 1768, il y a un monsieur qui s'appelle Samuel Joseph Guisan qui rejoint un de ses oncles au Suriname. Donc Guisan, il est né à Avenches, c'est dans le canton de Vaud en Suisse, rien à voir avec la Guyane. Et pour le coup, il a été ensuite en Guyane, mais pour le coup, d'abord il est passé par le Suriname. D'accord? Donc faut savoir que il s'est engagé pour la Guyane en 1773. Guisan, et ensuite ben, il est nommé ingénieur hydraulique en chef de la Guyane française et ingénieur militaire de Cayenne par Malouet. Pour le coup, Malouet, qui était le baron de la Guyane et qui s'est lié d'amitié avec Guisan. Donc Guisan, il a fait ouvrir un nouveau quartier, la Prouague. Est-ce que ça vous parle, la Prouague? Donc voilà, alors oui, j'aime bien quand il... En tout cas, je vous remercie d'être tous là. J'aime beaucoup, faut savoir une chose, c'est que je ne pars pas du principe que je sais tout, que j'ai la vérité absolue, pas du tout. Et comme DJ l'a dit, l'échange est une grande qualité. Et c'est pour ça que c'est intéressant que chacun puisse donner son avis, que les lives puissent être vivants. Et lorsque je ferai des vidéos sur ces sujets-là, n'hésitez pas à partager, commenter, donner vos avis pour qu'on puisse au moins être au courant de notre histoire. C'est ça le but en fait. Le but final, c'est que tout le monde soit au courant de son histoire. Voilà. Donc, pour faire court, c'est Guisan en fait qui a mis en place le canal Lossa. D'accord? C'est lui qui a fait construire le canal Lossa. Et du coup, il est considéré hein, comme l'un des hommes à avoir vraiment fait le plus sur en Guyane, quoi. Parce qu'il a fait creuser des canaux pour assainir Cayenne, dont le plus important justement fut le canal Sartine. Et le canal Sartine, c'est l'ancien nom du canal Lossa, justement. Voyez-vous? Donc avant de s'appeler canal Lossa, c'était le canal Sartine. Et du coup, il a aussi introduit la culture des nouvelles épices, telles que la muscade ou le girofle, par exemple. Après, il a quitté la Guyane et il est mort à Berne en 1801. Donc voilà. Et du coup, en fait, la Prouague, qui était un village pour le coup dans lequel il vivait, eh bien, à la demande des habitants, en 1834, le village a pris son nom et du coup, c'est passé de la Prouague à Guisembourg. Et je sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui vit à Guisembourg, mais j'aimerais beaucoup visiter, j'aimerais beaucoup aller voir. C'est quelque part en Guyane, je ne sais pas si vous avez déjà été, si vous connaissez, mais j'aimerais beaucoup y aller. Je ne sais pas si on a toujours le droit d'y aller ou pas, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais finir sur ça, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup échanger avec vous, mais le temps passe et en vrai, on va devoir se quitter. Donc, je vais juste vous raconter rapidement l'histoire de Tonnet Grande. Pour le coup, Mancinerie Tonnet Grande, je vous laisse sur ça. Et du coup, ben, Mancinerie Tonnet Grande, la Guyane rebelle. Faut savoir quelque chose, c'est que quand on nous fait croire qu'on a été colonisé, qu'on voilà, on s'est mis à genoux, etc., qu'on n'a pas pu résister, que ça a été un jeu d'enfant, c'est complètement faux. Faut le comprendre. J'ai envie de dire nos ancêtres, ceux qui étaient là avant nous, les esclaves se sont battus et avec brio pour certains. Donc, faut savoir que Tonnet Grande. Ça a été un haut lieu de la rébellion et de la résistance à l'esclavage. Et le nom Tonnet Grande proviendrait, il semblerait qu'il proviendrait de tonnerre gronde. Et il semblerait que ce nom-là soit issu, ce soit une déformation en fait, car la région connaissait en tout cas de fréquents orages. Donc là encore, ok, super. Donc Véronique qui nous confirme qu'on peut aller à Guisembourg. Eh bien, franchement, j'espère que je pourrai y aller un jour. Et d'ailleurs, De toute façon, voilà, j'ai des projets pour la Guyane, notamment pour le côté histoire. Donc, si jamais il y a des gens aussi qui sont intéressés et qui seront intéressés pour découvrir des endroits en Guyane, pour le coup, où on n'a peut-être jamais été, eh bien, ce sera le moment. À plusieurs, c'est plus cool. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Tonnet Grande viendrait probablement de tonnerre gronde, parce qu'il y avait beaucoup fréquemment des orages à Tonnet Grande. Mais symboliquement, en fait, on peut le ramener au coup de tonnerre des combats des nègres marrons de l'époque. Puisque Tonnet Grande fut avant tout un des hauts lieux de la rébellion et de la résistance à l'esclavage. Et du coup, il y avait. Alors, pour un petit rappel, hein, en aval du bourg de Mancinerie, il y a un îlet qui s'appelle l'îlet Cupidon, d'accord, qui porte le nom en fait d'un noir marron qui s'appelait Cupidon et qui a donné vraiment, je vais dire, du gaz, qui a vraiment malmené les colons de l'époque. Et du coup, on a donné son nom à ce petit îlet-là. Et en fait, lui, vraiment, ils ont eu énormément de mal à l'avoir. Ils ont vraiment eu énormément de mal à le battre. Et c'était vraiment, si vous voulez, vers... Ce qu'il a fait, en fait, c'est que pendant de longues années, Ça s'est passé vers la fin du 18e siècle par là. Il échappait sans cesse à ses poursuivants. Il venait même en plein jour. Il venait en plein jour, selon les dires. Là, voilà, on parle de choses de passé. Selon les dires, il venait même en plein jour pour attaquer les plantations et défier les propriétaires. Et parfois, il s'en prenait aussi aux esclaves de maison. Alors, on va pas revenir ce soir sur la relation esclave de maison, esclave des champs, etc. Franchement, le livre Mon nom est. Alors, Lilise Briquet qui nous dit le livre Mon nom est Coppenard a raconté une partie de son histoire. D'accord, ben ça, c'est. Merci pour l'information. C'est un livre que je lirai également, alors, j'espère. Et puis, DJ qui nous dit c'est vraiment très bien d'apprendre sur les livres, sur les lives, pardon, sur les lives. Belle initiative. Oui, j'en ai fait 12 en plus, DJ. C'est mon 12e live. D'accord? Mais je ferai des vidéos par la suite. Donc, voilà, faut savoir que. Cupidon, il a vraiment donné du gaz aux colons. Par contre, il a été tué pendant l'occupation portugaise de la Guyane par un autre noir libre qu'il a attiré dans un guet-apens. Donc le meurtrier a pu donc toucher la somme promise par les autorités, car la tête de Cupidon avait été mise à prix. Donc c'est pour vous dire que les colons, ben, en fait, ils ont pas mal, ils ont eu du mal en fait avec les esclaves. Ils ont eu du mal, ils ont connu de vraies résistances. Et il faut que nous, on soit conscients de ça dans notre histoire pour qu'on sache que, eh oui, ça n'a pas été simple quand ils sont venus nous coloniser. Ils sont pas arrivés, ils n'ont pas trouvé des gens qui étaient complètement à côté de la plaque. Ils ont trouvé des gens qui leur ont donné du gaz. Et ça, il faut qu'on soit conscients de nos héros. Les héros guyanais, nous devons les connaître. D'accord? Il faut que nous connaissions nos héros guyanais. Donc, alors, quel est mon nom, Véronique? Je m'appelle Alan Nobal. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, j'évolue dans le domaine du coaching, du développement personnel. Et aussi, je suis guyanais. Je suis guyanais, je suis parti pour les études et là, je développe mes projets. Mais en fait, j'ai beaucoup aussi de projets par rapport à l'histoire de la Guyane et ça me tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça que j'ai fait ce live-là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur partout Instagram, YouTube. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube les différents lives que j'ai pu faire sur Radio Mayuri Campus sur différents sujets. Mais en tout cas, voilà, il y a encore plein de choses qui vont arriver sur la Guyane. Donc, restez connectés, n'hésitez pas à me suivre. Il y aura plein de choses. J'ai fini ces trois livres déjà. J'en ai deux autres sur la Guyane que j'ai acheté en face des palmistes. Et vraiment, je veux connaître l'histoire de la Guyane sur le bout des doigts. C'est important. Donc, pour finir, les amis, je vous dirais que effectivement, Cayenne était une île. Ça peut paraître incroyable, mais si, puisqu'on peut voir déjà que lorsqu'on a le pont du Larivot et lorsqu'on va à Kourou, ben, on prend des ponts. Et en fait, il y a le. Alors, j'ai plus les deux noms en tête de ces deux fleuves-là. Mais en fait, lorsqu'on regarde les cartes de Cayenne à l'époque, je pense que c'était des cartes du 17e siècle, on se rend compte qu'autour de Cayenne, eh bien, on a les deux rivières qui se rejoignent. Et on réalise vraiment que Cayenne était littéralement une île. Eliane, oui, ok, c'est noté, j'ai fait classe avec. Ah bon, d'accord, Véronique. Eh ben, Véronique, figure-toi que ben, voilà, c'est mis au grand jour. Ben, Sylviane Nobal, c'est ma mère. Sylviane Nobal, c'est ma mère. Donc voilà. Et voilà, donc en fait, Cayenne, c'était une île, les amis. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a gardé cette expression, l'île de Cayenne. Ça vient de là. Et j'ai comme projet, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais j'aimerais remonter. C'est le Mahuri, si je dis pas de bêtises, mais je préfère pas trop en dire parce que faut que je retourne dans mes sources, etc. Mais je sais qu'il y a deux fleuves ou deux rivières autour de Cayenne, c'est notamment celle du pont du Larivot. En fait, les deux se rejoignaient avant dans le territoire et ça faisait de Cayenne une île. J'aimerais voir. Je ne sais pas si c'est possible d'y aller en pirogue ou quoi, mais j'aimerais voir si aujourd'hui toujours Cayenne est toujours une île reliée par les deux fleuves. Ce serait magnifique de pouvoir le prouver et de pouvoir montrer, mais je pense qu'avec la forêt, etc., avec le temps et les années, Cayenne n'est plus une île. Donc on pourrait se dire, ben, est-ce que c'est pertinent de dire l'île de Cayenne toujours? En tout cas, vous savez maintenant pourquoi on dit l'île de Cayenne et Cayenne, en tout cas, à un moment donné de l'histoire, a vraiment été une île, voilà, donc c'est pour ça que les gens dites pas, la Guyane n'est pas une île, ça c'est clair, mais Cayenne, ça l'a été. D'accord? Et j'aimerais vous le prouver. En tout cas, si ça l'est plus, c'est pas grave, mais en tout cas, ça l'a été à l'époque. Donc, je vous remercie d'avoir été là lors de ce live. Vous pourrez retrouver ce live sous forme de podcast sur la page de Radio Mayuri Campus, sur le site web, sur leur chaîne YouTube, sur la mienne également. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Cette nouvelle année s'annonce riche. Il y aura pas mal de projets qui vont arriver, que ce soit pour les jeunes de la diaspora antillo-guyanaise, que ce soit au niveau de l'histoire de la Guyane. Je vous réserve pas mal de choses et j'aimerais qu'on puisse apprendre ensemble parce que, encore une fois, je ne sais pas tout. Plus j'en apprends et plus je sais que je ne sais pas. Donc, il faut toujours apprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est déterminant pour nous d'apprendre notre histoire de façon à ce qu'on soit beaucoup plus, je dirais, tolérant par rapport aux autres et qu'on sache réellement d'où on vient. C'est très important. D'accord, Basto? Donc, t'inquiète pas, on aura l'occasion de discuter. J'ai envie d'en apprendre beaucoup plus sur l'histoire des Noirs marrons, parce qu'il y a aussi des... faut dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un, je dis la vérité, les amis, parce qu'aujourd'hui, je veux avancer. Et je sais aussi qu'il y a des tensions, que ce soit entre les créoles ou bien les Noirs du fleuve. Enfin, il y a des tensions inutiles en Guyane. On fait croire que certains sont pas Guyanais, etc. Il y a beaucoup de bêtises parce qu'on connaît pas notre histoire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous faire croire que oui, un tel n'est pas Guyanais, un tel est Guyanais. Il y a beaucoup de bêtises. On va remettre tout ça au goût du jour. On va retourner dans notre histoire et on va faire le point pour voir clairement ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais ne soyons plus ignorants et allons chercher notre histoire. Regardez, en face des palmistes. D'accord, les amis? Allez, en face des palmistes, allez vous procurer les livres. Faites-vous plaisir, c'est magnifique. C'était Alan Nobal et Alan Motivation. Un pur plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de la Guyane. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me suivre. Il y aura encore beaucoup de choses. C'est que le début, les amis. Portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année. Santé à vous. Faites attention à vous. L'année, pas trop d'alcool, etc. Prenez soin de vous, la famille. Prenez soin de votre famille. Allez parler aux gens à qui vous vouliez plus parler. On ne sait jamais. On peut partir du jour au lendemain. La vie tient qu'à un fil. Faites ce que vous avez à faire, battez-vous pour votre vie et allez chercher ce que vous voulez en 2020. D'accord, les amis? Restons connectés, il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver. Je ne peux pas rester plus longtemps, j'ai déjà débordé, mais bon, en réalité, c'est mon dernier podcast, mon dernier live, donc c'est pas grave, j'ai un peu forcé. Je vous laisse, on se retrouve sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre, à m'envoyer des messages. Ça, ce sera avec un grand plaisir que j'échangerai avec vous. Ciao, ciao la Guyane, ciao, ciao tout le monde, peu importe de là où vous êtes, de Toulouse, je ne sais pas. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao.